Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue dans cette édition de Peu contenir des infos. Très heureuse de vous retrouver, Cathy Morin, qui est avec vous, avec son fidèle comparse, Simon. Salut.
Salut, Cathy. Comment vas-tu?
Ça va très bien. Je vais te nommer au complet parce que j'ai dit Cathy Morin et Simon Forgue. Hein? T'es pas Madonna, t'as quand même un nom de famille.
J'ai un nom de famille, oui. Effectivement. Je m'en sers depuis ma naissance. Puis il me sied très bien. Là,
oui, c'est ce que j'allais dire. Ça te va très bien, Forgue. Je trouve que c'est.
Ouais, il n'y en a pas des chars. Il y a bien
non,
des gens qui
me.
Moi, j'entends souvent des gens qui se trompent sur mon nom. Je me suis fait appeler Forgues. Je me suis fait
Forgues.
Forgues, Forgues.
Hey, c'est exotique. Mais Simon, non. Est-ce Forgues? C'est comme si tu voudrais changer de vie puis aller au Mexique.
Je pourrais à la rigueur, mais ça me va très bien. Simon Forgues, surtout que c'est un nom qui est d'origine française, qui est ici en Amérique du Nord depuis plusieurs années, ça fait que ça bosse.
Oui, c'est vrai. C'est un très commun, mais pas trop.
Pas trop.
Juste assez pour avoir des anecdotes.
Oui.
Exactement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sujets. Le premier, en fait, je voulais vous poser des questions. En fait, qu'allez-vous faire à 102 ans?
Bonne question, je sais pas.
Ben moi, j'ai une petite idée là, mais je pense pas que moi être très forte.
Non, moi non plus.
Je vais sûrement dormir.
Je vais probablement jouer plus aux cartes que, on va dire, aller faire des grandes expéditions, des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Moi, je risque de peut-être hanter des gens. C'est mon objectif. J'aimerais être un fantôme et hanter des gens.
Okay.
J'ai pas personne en particulier, juste pour peut-être choisir une demeure et, okay. et hanter des gens. Donc, je vais vous poser la question ce que vous allez faire à 102 ans parce que quelqu'un qui a rempli tout un exploit. Également, je vais vous parler aussi de l'impact des humains sur la taille des animaux depuis les 1000 dernières années. C'est assez... évident, mais quand même, c'est questionnant aussi. Et Simon, toi, tu vas nous parler de sandwich, d'employés sandwich, donc pas de ballonnés.
Oui, non, mais qui sont les employés sandwich? Pourquoi on parle des employés sandwich? Alors, je vais vous parler de ces gens-là un petit peu plus tard dans l'émission. Vous allez trouver ça peut-être surprenant un petit peu.
Oui, et on va les définir un petit peu. Et maintenant, tu voulais en fait nous parler du conflit le plus absurde de l'histoire de l'Amérique du Nord, rien de moins.
Oui, absolument. Vous savez qu'à la grandeur du globe, actuellement, il y a des conflits qui se déroulent. Écoutez, on n'aura pas besoin de toutes les mentionner, mais on parlera simplement par exemple, Russie-Ukraine,
oui.
Conflit israélo-palestinien. On se demande à quoi ça sert et tout ça.
C'est dur de suivre aussi des fois d'où ça vient puis le pourquoi, on s'entend.
Ben oui, mais l'une des guerres les plus invraisemblables, les plus stupides qui soient survenues, je dis en Amérique du Nord, mais je dirais presque à la grandeur de la planète, c'est la guerre du cochon.
OK.
La guerre du cochon, c'est un événement bel et bien vrai qui est documenté, dont vous allez lire les détails dans l'Encyclopédie canadienne. Ça a été déclenché en 1859 par un banal cochon.
Vraiment, l'animal a causé une guerre.
Un conflit entre deux nations.
Okay.
Ça se passe dans les îles de San Juan, c'est un petit archipel entre l'État américain de Washington et l'île de Vancouver. On est en juin 1859. Il y a un fermier américain.
Okay.
Lui, il y a un potager qui se fait saccager à tout bout de champ par un cochon.
Okay.
Mais le cochon, il est la propriété d'un Irlandais qui est un sujet britannique, tu sais,
oui,
les Irlandais.
Oui, oui.
Alors lui, c'est un employé de la compagnie de la baie du Hudson.
OK.
Il est propriétaire du cochon. Mais l'affaire, c'est que les Britanniques et les Américains, à l'époque, sont pas tellement amis les uns avec les autres.
Hein? Non, surtout pas en 1800 quelque chose.
Exactement. Mm-hmm. Vous savez que les Britanniques sont installés au Canada.
Oui.
Les Américains sont de l'autre côté de la frontière. Il y a ce petit archipel-là que les deux nations se disputent en quelque sorte.
Oui.
Alors là, une fois que le gars, il est tanné de voir le cochon venir saccager son jardin.
Manger ses affaires.
Manger ses patates, manger ses navets, ses radis et tout ça. Il décide, il tue le cochon.
Oui. Oui, c'est peut-être la solution un peu drastique, mais quand t'es tanné, t'es tanné.
Oui, c'est ça. Mais ce qui aurait dû ou qui aurait pu, en principe, se régler par un simple dédommagement, ça a carrément tourné au vinaigre.
OK, comme ça sont vraiment chicanés pour le cochon. C'était-tu un cochon important?
Bien, je ne sais pas s'il était important, mais tu sais, quand on a rien qu'un ou deux, bien.
Oui, ça vaut son argent, effectivement.
Alors là, quand les Britanniques ont dit écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le propriétaire du cochon, l'Américain.
C'est lui qui est responsable, entre guillemets, d'avoir saccagé le jardin.
Oui, mais il aurait tout simplement pu dire, par exemple, donne-moi de l'argent, puis on va régler ça, puis tout simplement.
Ou gère ton cochon, tu sais, en amont, là.
Oui,
il aurait pu dire.
Mais lui, le gars en question, quand il était menacé de se faire arrêter par l'armée britannique,
oui.
Il a dit, une minute, m'en défendre. Il est allé voir l'armée américaine.
OK. Okay.
Il a grimpé pour une histoire de cochon. L'armée américaine contre l'armée britannique. Alors là, les Britanniques, eux autres, ont dit « Ouais, tu vas aller chercher l'américaine. » Ils ont parqué, ils ont stationné dans les eaux aux alentours de l'archipel en question, la flotte britannique.
Ben avait... voyons non, donc, non, sérieusement, pour un cochon.
Ils ont monopolisé des centaines de soldats dans les deux camps et on a appelé les gens à prendre les armes. Pour ce qui est devenu la guerre du cochon, véritable guerre du cochon. Et là, il faut comprendre que, évidemment, comme je le disais tantôt, les Américains et les Britanniques, c'était pas exactement ce qu'on appellerait des bons amis à l'époque.
Non, non, les relations étaient très difficiles.
Fort heureusement, la guerre du cochon, ça n'a pas fait de mort.
OK, sauf le cochon.
Bien, le cochon, oui, effectivement. Mais je veux dire, dans les troupes, dans les troupes britanniques et dans les troupes américaines, il n'y a personne qui s'est tiré dessus. Mais ça a quand même entraîné, ça a été l'élément déclencheur de ce qu'on a appelé la guerre du cochon. Et cette guerre-là s'est étirée quand même sur plusieurs années.
Bien, non! Fait, ben, des années?
Ben oui, sur quasiment, je pense, 12 ou 13 ans.
Ben voyons donc.
Ben oui, absolument. Alors, parce qu'il y a eu une occupation militaire conjointe des îles de San Juan qui a été faite pendant environ une douzaine d'années, entre la fin des années 1859 jusqu'en 1872. On a parqué des troupes, on se regardait en chien de faïence, là, chacun de leur côté. Menaçant de se tirer dessus et tout ça. Il n'y a jamais rien qui a éclaté
on
véritablement.
On a juste montré les dents un peu. Là.
C'est ça. Okay. Mais c'est le sang-froid, finalement, des chefs militaires des deux clans, puis un petit peu l'absurdité de la situation qui a fait qu'on ne s'est pas tiré dessus, il n'y a pas eu de mort, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, là, on va pas quand même s'arracher la tête pour la mort d'un cochon. Et finalement, c'est en 1872, un tribunal international qui a tranché, qui a rendu cette portion de terrain-là aux Américains. Et l'événement s'est clos. La guerre du cochon a pris fin, finalement, avec la rétrocession, à quelque part, de ces îles-là, de cet archipel-là. Mais c'est la preuve que même un événement assez, somme toute, assez anodin, là, comme la mort d'un cochon, peut provoquer des crises géopolitiques assez démesurées, là.
Bien, c'est l'escalade des fois, puis mettez-vous juste dans vos situations avec les voisins des fois. Là, il arrive quelque chose, puis finalement, c'est une escalade, puis on n'est même plus capable de se parler entre voisins, puis on saillit, on se met une clôture, ça ne marche plus, puis on s'en va promener. Là. Fait que, je pense que la leçon de ça, c'est parlez-vous.
Bien, parlez-vous, puis c'est l'effet papillon, à quelque part, qui est appliqué quasiment à l'histoire militaire.
En plein ça. Merci, Simon, pour ce pan d'histoire que je ne connaissais pas et que, effectivement, ça mérite la palme de conflit le plus absurde de l'histoire de l'Amérique du Nord. Moi, je voulais te parler, on va rester un peu dans les animaux, mais sur la taille des animaux, parce qu'on a découvert, en fait, que l'homme, évidemment, avait un impact sur la taille des animaux, mais probablement sur le contraire de ce que tu penses. Parce que tous les animaux, en fait, il y a une étude qui a été présentée par le PNSA, qui est le Proceeding of the National Academy of Science of the United States of America. Bravo pour ma prononciation. Merci. Voilà.
Donc, l'homme même.
Oui, c'est ça. Ça a été publié en 2025, en septembre 2025. Donc, c'est des chercheurs qui ont analysé 80 000 ossements qui proviennent de 311 sites archéologiques dans le sud de la France. Donc, on voulait comprendre comment la taille des animaux a évolué avec le temps puis avec l'impact des humains. Donc, pendant 7 000 ans, la taille des humains a été stable. Pas des humains, des animaux, pardon, a été stable. Et là, depuis 1000 ans, en fait, il y a eu une rupture par l'impact et l'impact des humains sur la vie. Donc, les animaux domestiques, on parle cochons, vaches, chevaux, sont de plus en plus gros parce qu'on veut produire de plus en plus. On veut produire plus de lait, on veut produire plus de viande, on veut des animaux, entre guillemets, qui sont performants. Et les animaux sauvages, eux, au contraire, la taille a diminué. Parce que l'humain a un impact sur leur habitat. Donc, on prend de plus en plus de place. Les habitats naturels de ces animaux-là diminuent. Moins de nourriture, moins d'espace. Donc, c'est un peu pour ça que ces animaux-là, en fait, ont perdu en taille et que les animaux domestiques ont grossi. T'attendais-tu à ça?
Ben, oui. Oui, honnêtement, je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que l'être humain, à mon sens, à moi, à bien des égards, on est à peu près sur la planète le plus gros parasite qui existe.
Oui, oui, c'est vrai. Dit comme ça, effectivement.
Je le dis de façon un peu péjorative, mais je ne suis pas étonné que pour les besoins de satisfaire ce gros parasite-là qui est l'être humain, tous les animaux de consommation, le cochon, comme tu dis, la vache et compagnie, on les fasse de plus en plus gros pour satisfaire nos besoins. Et qu'en contrepartie, par rapport à notre besoin d'expansionnisme, pour construire, par exemple, aller toujours plus loin dans la construction.
Oui, puis la demande.
C'est ça. Alors, forcément, ça doit créer une pression sur les animaux sauvages.
Oui, tout à fait. Puis ça a des portées, ça a des enjeux aussi, ça a certains impacts. Donc, la taille devient un indicateur écologique du rapport entre l'humain et l'animal. Donc, quand le rapport est plus égal, en fait, là, puis que c'est proportionnel, on sent qu'il y a un rapport écologique qui est neutre. Mais là, plus l'animal va rapetisser, plus l'impact de l'humain va grossir, bien, ça va changer. changer sur l'écologie. Ça va avoir un impact aussi sur l'environnement qu'on va vivre.
Incroyable.
Autre enjeu également, la question fondamentale, c'est jusqu'où notre influence transforme-t-elle ou si la faune est jusqu'où on va se rendre? Parce qu'on en parle plusieurs, il y a plusieurs animaux qui sont en voie d'extinction, il y a des animaux qui sont disparus de la planète. Donc, c'est vraiment de revoir comment on peut, on s'entend, c'est important de se nourrir, il y a de l'agriculture qui se fait, qui est responsable. Donc, c'est vraiment de revoir comment nous, l'humain, on peut avoir un impact moins important sur les animaux sauvages, mais toujours garder, on s'entend, là, il y a des choses qu'il faut garder, mais de garder le rapport avec la nourriture, la production, ne pas briser non plus la chaîne d'approvisionnement parce qu'il ne faut pas, si on diminue puis on veut avoir un moins gros impact, il faut s'assurer de quand même être capable de répondre à une certaine demande. Donc, on est un peu dans cet enjeu-là puis ça m'a un peu surpris. Surprise oui et non, là, mais...
En fait, ce que j'allais dire, c'est que je ne l'aurais pas soupçonné ou je ne me serais pas nécessairement attendu à ce lien-là de cause à effet, mais quand tu me l'expliques ou de l'entendre, je trouve ça pas normal, je ne dis pas que c'est normal, mais je trouve ça explicable. Je ne suis pas étonné d'apprendre que la pression de l'être humain sur les ressources planétaires, le fait, par exemple, qu'on fait de l'élevage à grande échelle, il y a des élevages de porcs, par exemple, aux États-Unis, c'est il y a plus de porcs qu'il y a dans certaines villes nord-américaines. Et en contrepartie, on va saper les forêts, les ressources naturelles et tout ça, que forcément, le cheptel de
cerf
et compagnie qui est là diminue et rapetisse. Ça ne me surprend pas, là, au final.
C'est ça. Quand j'ai lu le titre au départ, je me suis dit, on va me dire que les animaux sauvages sont plus dangereux, sont plus gros. Puis là, finalement, quand j'ai commencé à lire, j'ai compris où on s'en allait. Puis ça nous ramène un peu avec le rapport de la... notre rapport avec la nature et avec la faune. Au retour, Simon, on aura, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de la visite. Rachel Christin va être là et on parlera de plusieurs anniversaires de la francophonie canadienne.
Restez en contact avec Le Contenir des Infos.
Le Contenir des Infos.
Écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des Infos.
Deuxième bloc de l'émission peut contenir des infos. Et on a de la visite en studio. Simon, c'est rare. Il a fallu se mettre propre, prendre notre douche, habiller.
Oui, mais me raser.
Oui.
Ce qui n'est pas vrai du tout. Non, ça fait comme deux jours que je ne me suis pas rasé, mais c'est pas grave. Mais c'est ça la beauté de faire de la radio.
Oui, mais tu n'as pas une très longue... Elle ne pousse pas vite.
Ça ne pousse pas très, très vite. Ça ne baigne pas dans l'eau, mettons.
Non, c'est comme je te dis, on a de la belle visite aujourd'hui en studio. Rachel Christin qui est là, donc journaliste culturelle que vous avez peut-être vu, entendu ou lu encore à ONFR. Salut, Rachel.
Allô, c'est tellement fun de vous retrouver, d'être dans un studio de radio. Puis, en toute transparence, Cathy et moi, on a étudié ensemble.
Oui,
c'est fun de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Mais bienvenue dans la région, en fait.
Oui, très contente de te retrouver, Rachel. Puis, c'est ce que j'avais dit un peu l'entrée de jeu à nos auditeurs. C'est je retrouve une collègue du cégep de l'époque. Ça nous rajeunit pas, quand même.
Non, c'est ça. On se rend compte que c'est finalement, ça fait un petit bout de temps.
Oui, c'est
même.
Ça. La vie va vite. Donc, tu as fait plusieurs années de radio, plus de 10 ans de radio un peu partout, à Gatineau, entre autres.
Oui.
Puis là, tu es rendue à ONFR. Tu couvres tout ce qui est surtout franco-ontarien, mais tu t'intéresses pas mal à la culture canadienne en général, là.
Oui, en fait, nous, au NFR, moi, je suis journaliste culturelle, je suis rattachée au bureau d'Ottawa, mais je couvre toute la province. La première priorité, c'est l'Ontario francophone. Deuxième, c'est le Canada francophone. Donc, tout ce qui est en milieu minoritaire, ça m'intéresse. J'essaie de me garder un petit peu des antennes. C'est sûr que le territoire est immense. Quand je peux me promener, je le fais. Mais c'est sûr que mon expertise principale est en Ontario.
Bien, la beauté de la chose, c'est que tu pourras aller sur le site nosradios.ca de l'Alliance des radios communautaires et on a toutes nos radios francophones qui sont
très
là, tu n'as qu'à faire une petite plug. Rachel, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet en fait qui touche la francophonie canadienne. Il y a plusieurs anniversaires, plusieurs 50e anniversaire cette année.
Exact. Et pas juste 50e, en fait. On est dans une période, on est mine de rien au milieu des années 20 déjà. Et,
oui. c'est drôle à dire. Hein?
Ça fait drôle.
Mais c'est ça. Donc, on est dans une période qui est à peu près 50 ans après le début de l'émancipation franco-canadienne. Donc, il y a eu la Révolution tranquille au Québec, c'est de 60 à 70 environ. Puis là, les Québécois ont commencé à arrêter de s'appeler des Canadiens français. Puis là, on est des Québécois, donc on est autre chose, on est notre propre peuple. Et là, les francophones ailleurs au Canada ont un peu fait OK, alors nous, on est quoi maintenant? Donc, c'est pour ça que, tu sais, début des années 70, mais surtout milieu des années 70, il y a eu beaucoup d'institutions francophones qui se sont créées, carrément de mots pour nommer les francophones. Aussi, je pense au Françaisquois, le mot
oui.
existait avant, mais c'est comme début des années 70, je pense 72, où ils ont dit, OK, on adopte ce mot-là, ils ont fait un vote et tout, puis on a décidé de s'appeler des Françaisquois, par exemple. Alors, on les salue s'il y en a qui nous écoutent.
Oui, il y en a plusieurs qui sont là à l'écoute dans nos radios, puis c'est ça, c'est cette beauté-là de cette émancipation. Passion-là francophone.
Oui, et justement, le Conseil culturel Françaisquois fait partie des institutions qui ont fêté leur 50e anniversaire. C'était l'an dernier. Au théâtre aussi, la Troupe du jour de Saskatoon a souligné son 40e quand même. C'est un autre beau chiffron.
Oui.
Et récemment, j'étais aux ouvertures, à l'ouverture des ondes théâtrales. Donc ça, c'est une biennale de théâtre pour tout ce qui est Canada francophone et région du Québec. Donc, on se réunit à Ottawa, l'industrie du théâtre. Il y a des pièces en chantier, il y a des pièces achevées aussi. Et hier, ça se passe au Centre national des arts en bonne partie à Ottawa. Le président et chef de la direction du CNA, Christopher Deakin, a salué justement plusieurs institutions théâtrales qui fêtaient des anniversaires importants. Donc, on salue aussi les gens de Vancouver avec le Théâtre La 16e et les gens de Caraquet au Nouveau-Brunswick avec le Théâtre populaire d'Acadie qui ont souligné aussi leurs 50 ans.
C'est tellement important, ces petits groupes de théâtre-là, puis ces troupes de théâtre-là, c'est la culture, c'est l'histoire, puis c'est souvent l'essence des petites communautés francophones. Puis je trouve ça incroyable de savoir que des troupes de théâtre comme ça perdurent dans le temps puis ça poursuit avec leur mission.
Exact. Et aux zones théâtrales, il y a même une activité particulière pour un théâtre de Winnipeg qui s'appelle le Théâtre Cercle Molière. Je sais pas si
oui.
vous avez déjà entendu oui. parler, mais probablement parce que ça fait 100 ans que
wow.
le théâtre mm-hmm. existe. Ouais. C'est la plus vieille compagnie de théâtre encore active au Canada et ça, toutes langues confondues. Donc, il y a le 100e anniversaire. Il y a plein d'activités qui se déroulent évidemment à Winnipeg. Il y aura le 4 octobre, un grand gala. Il y avait beaucoup de
oui, hein?
Un grand gala pour souligner les 100 ans du Théâtre Cercle Molière. Et on tourne aussi la page. On a décidé de passer le flambeau du côté de la direction artistique et générale. Donc, c'est Geneviève Pelletier qui était en poste depuis 12 ans qui a cédé sa place. Donc, maintenant, nouvelle directrice artistique et co-directrice générale qui s'appelle Marie-Ève Fontaine. Marie-Ève Fontaine, d'ailleurs, qui a vécu à Ottawa pendant 15 ans, mais qui est une fille de Winnipeg, de Saint-Boniface. Okay. Et là, elle retourne au Bercail pour aller s'occuper de cette institution qui a forgé son identité théâtrale aussi. Donc, c'est vraiment une espèce de boucle là, qui se boucle, finalement.
Moi, quand je t'entends parler de toutes ces choses-là, Rachel, je sais qu'il y a dans la tête de certaines personnes cette question-là qui leur vient à l'esprit. Pourquoi on paye pour les arts et la culture quand il y a tellement d'autres affaires dans lesquelles on devrait mettre de l'argent? On devrait mettre de l'argent dans l'éducation, on devrait mettre de l'argent dans la santé et tout ça. Mais quand je t'entends relater justement ces étapes ou ces jalons importants-là dans la francophonie canadienne qui tiennent dans les arts et la culture, des troupes de théâtre, par exemple, des choses comme celles-là, c'est là qu'on voit que les arts et la culture sont intimement liés aux questions linguistiques, à la vitalité de nos communautés francophones à travers le pays.
Oui, et le Conseil des arts de l'Ontario, justement, dans cette veine-là, dans cette optique-là, a lancé récemment un outil pour mesurer les retombées économiques, mais par région de l'Ontario, si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est fascinant. On peut aller regarder parce que c'est sûr qu'un dollar investi en culture à Toronto, ça ne rapporte pas la même chose qu'un dollar investi en culture à Hearst, par exemple. Mm-hmm. Donc, dans des plus petites communautés, oui, peut-être qu'en dollars précis, en nombre de dollars, c'est un peu moins, mais en proportion, c'est hyper important, la culture, justement, pour la vitalité francophone, particulièrement dans les petites communautés. Donc, c'est vraiment, là, avec ce que tu viens de dire, ça fonctionne à fond, puis c'est vraiment un outil à aller explorer.
Et c'est ça, c'est intéressant que tu le mentionnes, il ne faut pas le voir en dollars absolus, en somme, à proprement parler. Dollar pour dollar, mais il faut voir l'impact que le dollar a, au bout du compte, dans la vitalité de nos communautés linguistiques.
Ben oui, exactement. On parle de l'impact du maintien de la langue française, de la fierté aussi
avec tous les anniversaires dont on parle, on s'en rend compte, là.
Oui, effectivement. Et là, ben justement, le Théâtre Cercle Molière qui fête son 100e anniversaire avec, entre autres aussi, si vous êtes dans ce coin-là, la pièce Pauline Boutal, Entre les toiles et les planches, qui va être présentée du 22 octobre au 1er novembre. C'est un texte de Lise Gaboury-Diallo. Et qui est Pauline Boutal? Ben, elle a été justement la directrice artistique du Théâtre Cercle Molière pendant 27 ans.
Wow!
Donc, de 1941 à 1968. Et c'est peut-être un peu le secret de la longévité de cette compagnie de théâtre-là. Et la stabilité, en tout cas, entre autres avec les directeurs artistiques. Il y a Roland Mahé qui était là aussi pendant 47 ans.
Ben voyons donc. Donc, il y en a eu comme pas tant que ça, les directeurs généraux, on s'entend, c'est impressionnant.
Exactement, exactement. Donc là, on verra Maria Fontaine combien de temps elle va faire. Geneviève Pelletier, elle, après 12 ans, s'est dit, ben, j'arrive justement au centième. C'est comme un bon moment pour passer le flambeau à la prochaine personne et qui va pouvoir modeler un peu le théâtre à sa manière, mais surtout à la manière des Franco-Manitobains.
Mais 12 ans, c'est quand même pas négligeable. Félicitations à elle pour ce travail-là. Et à la personne qui va prendre les rênes après 100 ans, c'est quand même des grandes chaussures à porter. Là.
Oui, puis je pense quand même que c'est un bateau qui est bien, qui vogue déjà, oui. C'est bien quand même, là, qui est bien implanté dans la communauté là-bas. Je suis allée faire un tour d'ailleurs l'hiver dernier, puis on voit que c'est important justement dans la communauté francophone. Mais là, j'aimerais qu'on revienne de mon côté en Ontario.
Oui, certainement.
Parce qu'on a un autre anniversaire important. On parlait de 50e et là, dans quelques semaines, quelques jours, c'est le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.
Oui, okay. Quelle beauté qui est affichée d'ailleurs très fièrement dans notre studio ici.
Exactement. Alors, il y a évidemment la fleur de lys pour la francophonie mondiale. Il y a le treillis pour l'Ontario, le vert pour l'été, le blanc pour l'hiver. Et c'est un drapeau qui a été imaginé par Gaétan Gervais et Michel Dupuis et qui a été ici pour la première fois le 25 septembre 1975 devant l'Université de Sudbury. Alors, si jamais vous avez envie de vivre l'émotion et le côté très protocolaire aussi, ouais. Il y a justement à Sudbury une activité qui est organisée là, le 25 septembre et qui est chapeautée par la lieutenante-gouverneure Edith Dumont, qui est d'ailleurs la première franco-ontarienne à occuper ces fonctions-là. Wow. Mm-hmm. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'assez gros. C'est organisé, entre autres, par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et plusieurs autres organismes.
Et si jamais vous avez pas ou jamais assisté à ce genre d'événement-là protocolaire de drapeau, c'est impressionnant. Et puis, c'est beau aussi de voir toute cette fierté, de comprendre l'histoire d'où vient le drapeau, parce qu'on on le voit flotter dans diverses communautés francophones, franco-ontariennes, mais de comprendre d'où ça vient, des enjeux, puis d'en arriver à ce point-là culminant des 50 ans de fierté franco-ontarienne, bien, c'est important dans l'histoire.
Oui. Et si vous êtes dans la capitale, donc à Ottawa, qui est aussi une des communautés, si ce n'est pas la communauté la plus bilingue au Canada, on a vraiment, tu sais, on se promène, puis on a vraiment les deux langues constamment dans les oreilles, il y a l'ACFO Ottawa qui organise le 5-0 le 25 septembre, donc c'est une soirée avec à peu près tous les franco-ontariens de la région d'Ottawa en termes d'artistes.
OK, OK, tout le monde est là.
Tout le monde est là. Je regarde ça.
Mais ça vous met, on va la nommer, notre grande franco-ontarienne, Damien Robitaille.
Mélissa est là. Damien, je ne pense pas que Damien est là, par contre, excuse-moi, je t'ai induit en erreur, mais Damien habite à Montréal quand même depuis,
oui, c'est vrai,
depuis longtemps. Puis il vient de La Fontaine, il ne vient pas d'Ottawa comme tel. Mais il y a Céleste Lévy, DJ Pierre, Gabriel Goulet, Jesse Lindsay, Jolie, donc Marc-Antoine Jolie, Kimia, entre autres, King H509, Mackenna Renkin-Guerin, bon, tu l'as dit, Mélissa Ouimet, Mimi Obonsawin, puis je pourrais continuer, il y en a plusieurs qui vont se rassembler en même temps pour un grand spectacle. Je pense que ça va être grandiose parce que c'est des gens qui sont impliqués dans leur francophonie.
Effectivement.
Jour après jour, au quotidien, qu'ils soient encore dans la région ici ou qu'ils soient justement à Montréal ou ailleurs, mais c'est des gens qui portent le titre de franco-ontarien de façon assez fière. Et si ça vous tente, vous aussi, de vous mettre dans l'ambiance, ben ils ont lancé, je dis « il », la communauté artistique franco-ontarienne, mais menée par le compositeur Brian Saint-Pierre, compositeur de Mon beau drapeau. Ils ont lancé une nouvelle version de Mon beau drapeau. C'est un peu le We are the world franco-canadien. Là, je sais que j'ai parlé à Brian, puis il était comme, on dirait que j'ose pas vraiment le dire. Mais après, tout le monde me disait, ben non, c'est ça.
Ça sonne comme ça.
Il y a Véronique Ducard, il y a justement Damien Robitaille là-dedans, il y a Robert Paquette, il y a des grands noms franco-ontariens qui reprennent la chanson Mon beau drapeau avec une immense chorale avec les chansonniers d'Ottawa. Et ça rentre dedans. Comme on dit, c'est...
Bien, on va se laisser justement sur un petit extrait. Et avant de te laisser aller, Rachel, premièrement, merci. C'était tellement intéressant et pertinent ce que tu viens de nous apprendre sur les 50 ans et aussi 100 ans et de tous les anniversaires, en fait, francophones qui s'en viennent dans la prochaine année. À quel endroit on peut te suivre, Rachel, pour tes articles, tes vidéos et peu importe tout ce que tu peux suivre sur la culture?
C'est onfr.org, donc ON comme Ontario, FR comme français, onfr.org, assez simple. Sur le site de TFO aussi, parce que ONFR, c'est la franchise d'actualité de TFO, qui est la télévision franco-ontarienne. Donc, vous pouvez retrouver du contenu ONFR par là aussi. Et je vous invite à suivre la chaîne YouTube d'ONFR, parce que, bon, en tant que média canadien, sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué depuis que Meta bloque les médias canadiens. Donc, c'est vraiment sur YouTube qu'on met le plus de contenu présentement.
Bien, merci beaucoup, Rachel. Puis on se retrouve environ dans un mois. Donc, on te retrouvera pour cette saison automnale. Et Simon, je te garde avec moi parce qu'après la pause, je vais te demander ce que tu vas faire à 102 ans. Pense-y.
Oh, wow!
Et on écoute un extrait de la chanson « Mon beau drapeau » de Brian Saint-Pierre.
Je te chante, mon beau drapeau.
avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Un gros merci encore à Rachel qui s'est déplacée dans nos studios pour nous parler de plusieurs anniversaires importants dans la francophonie. Un petit attachement quand même au drapeau franco-ontarien. Et là, Simon, tu voulais nous parler de quoi?
Je vais vous parler des employés sandwich. Connais-tu les employés sandwich?
Est-ce que c'est ceux qui font le dîner à tout le monde au bureau, ça?
Non. Ils peuvent commander de la pizza de temps en temps, même, les employés sandwich.
Tant mieux, on les aime, eux.
Oui, c'est ça. Mais écoutez, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que dans l'environnement du travail actuel, il y a des gens qui sont plus pressés que les autres.
Oui.
Qui sont plus, quand je dis pressés, pas, je parle pas de rapidité, mais je parle de compressés. Hein.
Dans les tâches puis dans ce qu'on peut faire.
Exactement. Okay. Et les employés sandwich, ce sont les salariés les plus susceptibles de faire un burn-out dans une entreprise.
Ah ben j'imagine quand t'en as plein ton assiette.
Et qui sont les premiers candidats à l'épuisement professionnel, ces fameux employés sandwich? Ce sont les cadres intermédiaires.
Oh, donc ceux qui apportent assistance à la direction et ceux qui apportent assistance aux employés.
Exactement. On vient d'en faire la démonstration et on commence à de mieux en mieux comprendre ça dans l'environnement dans lequel on vit. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement que le télétravail qui est responsable de cette problématique-là ou de cette prise de conscience, mais à quelque part, c'en est en partie responsable. Alors, les cadres intermédiaires, ces fameux employés sandwich, sont les plus exposés au burn-out. C'est ce que révèlent maintenant plusieurs experts du monde du travail. Ils sont pris entre, d'une part, des responsabilités managériale,
de direction, exactement.
Et de l'autre côté, ben ils ont des subalternes en tous deux autres à qui ils donnent des instructions. Et ces employés sandwich-là, peut-être en êtes-vous vous-même, des cadres intermédiaires, ou peut-être en avez-vous dans votre organisation, comment on les reconnaît? On les reconnaît par la position charnière qu'ils occupent dans l'organisation. Parce qu'ils ont une position à la fois stratégique, mais vulnérable dans une certaine façon. Parce qu'ils sont chefs de telle ou telle direction ou division. Tu sais, par exemple, je suis chef du département, par exemple, de, je sais pas, du service à la clientèle.
Oui, exact.
J'ai un boss qui est au-dessus de moi, puis j'ai des gens en dessous de moi qui donnent du service à la clientèle.
Fait que t'es le ballonné dans le sandwich.
C'est exactement ça.
Aha.
Je suis pris entre les deux tranches de pain du patron qui est en haut et l'employé qui est en dessous qui, lui, oui, se fait donner des instructions, mais à quelque part, c'est pas lui qui va avoir la marde quand il y a des problèmes qui surviennent.
Non, puis qui a besoin aussi de se faire accompagner. Il y a une certaine gestion à faire avec des employés.
Eh bien, exactement. Alors, les raisons principales pour lesquelles ils sont candidats au burn-out, et ce qu'on commence à s'en rendre compte, c'est que leur niveau hiérarchique les sollicite sans relâche. Mm-hmm. Ils ont à rendre des comptes à des employés à qui ils donnent des instructions. Oui. Un patron qui est au-dessus. Ils sont ni parfaitement décisionnaires, ni simples exécutants. Ils sont entre les deux.
Mm-hmm.
Et ironiquement, on les garde plus souvent qu'autrement en dehors du processus décisionnel. Mais
ce qui est ironique, quand même.
Ce qui est ironique. Mais quand on prend des décisions, bien là, on dit, c'est à toi, le directeur de la division, de mettre ça en place, puis d'aboutir finalement au projet que nous autres, on a décidé à ta place. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, donc autrement dit, c'est de défendre ou d'aller porter des idées à l'équipe qui ont été prises par la direction, puis que des fois, ben, les cadres intermédiaires ne sont pas toujours consultés. Donc des fois, c'est de défendre une décision pour laquelle on n'a pas été consulté et peut-être qu'on n'est pas d'accord. Donc ça crée une frustration, ça peut créer certains... Mais en même temps, ça reste que tu es un subalterne aussi, tu as un boss, fait que tu n'as pas le choix de faire ta job. Puis c'est compliqué. Je comprends l'espèce de dualité dans ce rôle-là.
Des fois, on leur donne même pas le budget pour le faire. On dit, t'as un projet, quand t'auras besoin de l'argent pour mettre à bien, quand t'auras besoin de cash là, pour justement acheter des choses pour mettre à bien le projet, tu viendras nous voir puis on va te donner l'argent pour, tu comprends? C'est qu'ils sont vraiment pognés. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a rajouté à cela ce qu'ils appellent le télétravail.
Mm-hmm.
Les équipes qui sont pas en présentiel, c'est devenu de plus en plus difficile. Il y a un sentiment d'isolement. Il y a des tensions au sein des équipes et des choses comme ça. Alors là, vous allez obtenir effectivement le cocktail parfait pour les burn-out. Et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'on est pris actuellement avec une espèce de problématique. Ces employés sandwich, les cadres intermédiaires, sont de plus en plus dans les cabinets des psychologues et des thérapeutes en entreprise parce qu'ils vivent, il y a une espèce de crise du travail qu'on vit. Et c'est vrai, là.
Oui, puis avec le côté, comme tu dis, du télétravail, ce qui amène une difficulté aussi, c'est que bien souvent, on va voir le problème une fois qu'il est grave. Parce qu'en télétravail, bien, on ne peut pas assurer de suivi tout le temps. Oui, on peut en faire, mais on s'entend, c'est pas pareil, là. Donc, quand on arrive à un problème puis qu'il faut régler une situation en télétravail, bien, c'est souvent quand c'est rendu grave. Donc, c'est difficile un peu de défaire puis de comprendre comment on est en arrivé là, alors qu'on n'a pas été dans l'entourage ou de cette personne-là pour l'accompagner dans son travail, là.
Oui, et le monde du travail, le monde des ressources humaines, de façon générale, commence à prendre de mieux en mieux conscience de cette problématique qu'on s'en va droit vers un mur avec ses employés sandwich, les cadres intermédiaires, qu'on ménage pas, là, entre guillemets.
Mais ils sont essentiel aussi en même temps. On s'entend parce que quand la direction est occupée à faire son travail de direction, ça prend quelqu'un pour gérer l'équipe.
Bien, c'est ça. Et la problématique, c'est que quand cette personne-là tombe en burn-out ou a des problèmes, ça ne se limite pas qu'à cet individu-là. Ça a des répercussions sur toute l'entreprise ou sur toute l'organisation parce que là, il y a des organisations du travail, il y a une baisse de performance collective, il y a des motivations au sein des troupes et tout ça. Ça engendre des coûts directs et indirects, oui. De l'absentéisme et des choses comme celle-là. Comment régler ça en conclusion, en une petite minute ou quelque chose dans le genre? Bien, répartissez mieux et plus clairement les rôles au sein de l'entreprise, par exemple. Clarifiez les attentes de chaque plateau hiérarchique.
Ça, c'est important, les attentes, parce que souvent, il y a des non-dits. C'est les non-dits qui créent les frustrations. C'est très important de nommer chacun ses attentes, puis ensuite, on trouve un point commun.
Valoriser les expertises. Oui. Offrir des formations adaptées à ces gens-là et à leurs subalternes, de telle façon que le subalterne, par exemple, n'est pas systématiquement à aller voir son cadre intermédiaire, exact. Pour demander « Je peux-tu faire ça? » ou « Je peux-tu pas faire ça? » Tu comprends? Alors, ça, c'est tout. Puis faites disparaître les contradictions en terminant. Comme par exemple, tu demandes à un corps d'intermédiaire, on a un projet, mène-moi ça à bien, puis quand tu auras besoin de l'argent, tu viendras me voir. Ben, tu sais, comme, allez-y, all in. Faites confiance à ces gens-là.
Oui.
Expliquez, tu sais...
Ils sont pas là pour rien non plus. Ils n'ont pas atteint cette position-là. Ben, peut-être qu'il y en a là que c'est parce que c'était leurs parents ou qu'ils ont eu des plugs. Là, ça arrive, on s'entend. Oui. Mais en général, ces gens-là ont mérité leur poste et ils sont qualifiés pour être là.
Voilà. Dialoguez, reconnaissez, félicitez en conclusion. Puis de cette façon-là, vous n'allez pas avoir du monde qui se brûle à l'ouvrage, comme on dit.
En plein ça. Eh bien, merci, Simon, pour ces précisions. Puis prenez soin de vos employés et de... Ben, des fois, dites-les à votre boss, hey, j'apprécie telle affaire. C'est le fun de pouvoir... des fois, des petites tapes dans le dos au lieu des tapes d'en face.
Hey, ça fait du bien, ça.
Oh oui, ça fait du bien. Bien placé, en tout cas, ça fait du bien. Hey, Simon, est-ce que tu sais ce que tu feras à 102 ans?
J'ai de la misère à savoir ce que je vais faire à 65. Là.
Oh, c'est... Moi, je prévois être morte. Mais...
Oh ouais, hein?
Ben, à 102 ans, là...
Ah non, 102 ans, non, c'est
102
clair.
Ans, mais ah non, 102 ans, on s'entend aujourd'hui, la longévité, on peut vivre longtemps, mais moi, à 102, je pense que je vais être morte. Une fois que je vais atteindre 100, là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ça, c'est mon objectif dans la vie, mais je veux te parler, en fait, d'un exploit incroyable. Il y a un Japonais de 102 ans,
oui.
Qui a battu un record mondial. Est-ce que tu connais le mont Fuji?
Oui, oui, absolument. Donc, c'est le plus haut du Japon, sauf erreur.
Exactement. Donc, 3776 mètres d'altitude, exactement. Là. Donc, c'est lui, ce Japonais de 102 ans-là, a décidé, tiens, mon projet de retraite, m'en aller monter en montagne.
Tu me niaises?
Non, Simon.
102 ans?
102 ans. Donc, il a été reconnu par le Guinness World Record, évidemment.
Ben, je
te puis, bon, je te parle du personnage un peu parce que quand j'ai vu le titre, il bat un record à 102 ans, je me suis dit, bon, il a joué à pétanque puis il a fait un super coup, tu sais. Mais non, donc, le monsieur s'appelle Kokichi Azu. Zawa. Donc, il a 102 ans. Désolé, mon japonais est vraiment rouillé. Donc, il est déjà détenteur, lui, d'un record mondial qu'il avait fait en 2019, pardon, à 96 ans. Donc, il a décidé de se battre lui-même, donc de repousser ses limites. Donc, c'est un homme qui est très actif, qui est passionné, qui est engagé. Donc, comment il a fait à 102 ans pour se préparer à ça? Ça doit être une question que tu te poses parce que moi, je fais de la course puis je suis raqué le lendemain.
Bien, à 102 ans, là, je veux dire, le corps, il ne suit plus comme quand t'en avais 20 ou 25. Là.
Non, non, non. Puis la récupération non plus n'est pas la même. Donc, lui, il s'est préparé pendant 3 mois intensifs. Sa routine, il se réveillait à 5 heures à tous les jours. Il prenait sa marche matinale. Après ça, c'était son ascension hebdomadaire de montagne locale, là, aux alentours de son village de Nagano. Puis après ça, il se faisait des petits défis supplémentaires. Donc, il mettait la marche à reculons, il essayait d'autres choses. Puis de son... Oui, il s'est entraîné comme ça pendant 3 mois.
Ouais.
De la marche et des petits monts. Rien de moins. Juste ça.
OK.
Et quand même, ce monsieur-là a 102 ans. Donc, tu peux te douter qu'il y a quelques petites contraintes de santé. Il a des problèmes cardiaques, il fait du zona et il a eu des blessures antérieures, évidemment, suite à ses exploits sportifs. Mais il a réussi tout ça grâce aussi à l'appui de sa famille, sa fille qui a 70 ans. Il l'a eu tard quand même, quand tu penses, 30 ans. En tout cas, dans le temps, peu importe.
Ben, 32 ans. Là, c'est...
Ouais. Ah, ben, c'était peut-être pas sa première. Moi, je suis qui pour juger ses enfants, moi, de toute façon? Donc, il a été encouragé par sa fille de 70 ans, ses petits-enfants également et son mari et ses amis du club d'alpinisme parce qu'il fait partie d'un club d'alpinisme au Japon. Donc, vraiment, ça a été un moment fort. Ça a été difficile pour lui aussi. Il y a des moments où il a pensé abandonner, mais finalement, il a réussi. Donc, il a fait son ascension le 5 août avec des conditions assez difficiles. Évidemment, l'altitude, le manque d'air et la fatigue. Il a failli, donc, je vous le dis, abandonner en route parce que, bon, c'était difficile. C'était pas évident non plus côté comme préparation.
Ben attends, là, il y a du monde de 20-25 ans qui ferait ça, qui abandonnerait avant même d'avoir franchi le premier kilomètre, là.
Oui, oui. Mais il y en a. Puis c'est pas tout le monde
qui peut monter. Lui, il a monté, il est rendu
3000 quelques mètres, 3776 mètres.
C'est incroyable.
Mais puis moi, c'est la préparation, comme ça a juste pris 3 mois.
Ben oui,
se préparer à 102 ans.
Je créerais.
Puis, tu sais, je comprends là, que c'est quelqu'un qui est en forme parce qu'il en a fait d'autres, mais, tu sais...
Je pensais que t'allais me dire que le gars, tu sais, il faisait du vélo stationnaire, puis ouais. Des grosses affaires, l'aérobic pendant 6 mois, 1 an, mais non, 3 mois, une petite marche quotidienne, me lève à 5 heures, je prends ma douche, je m'en vais marcher, puis ça, c'est quand même spécial.
Ben, pas juste la marche, Simon, il marche par en avant, puis de reculons.
Puis par en arrière. Monte oui, des pentes par en arrière.
Oui, c'est ça. Il part d'un bord, puis il revient de l'autre. Fait que c'est tout un exploit. Il fait donc partie du... Puis il est super en santé encore, malgré les petits problèmes là, de santé que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si vous voulez aller voir ça, je vous invite à faire le tour. Très attachant aussi le personnage dans la petite entrevue qu'il a fait. Là, vraiment, c'était...
Il y en a beaucoup de centenaires au Japon. Hein. Je pense que oui. C'est très certainement une des nations où il y a le plus haut taux de personnes qui sont au-delà de 100 ans. Là.
Oui, mais je pense que la qualité de vie aussi, en général, la façon dont les habitudes de vie aussi des Japonais sont un peu meilleures peut-être que celles en Amérique du Nord.
Poisson. Oui. Du bon riz avec des grains entiers, des choses comme ça.
Mais ils sont plus actifs aussi parce que dans les grands centres, c'est plus de transports en commun, moins de voitures, parce oui. Qu'il y a des voitures dans certaines villes que tu ne peux pas en avoir étant donné que c'est trop populeux. Donc, il y a peut-être ça qui rentre en bout de ligne, mais oui, beaucoup de centenaires au Japon. Félicitations à ce monsieur-là. Je ne ferai pas ça dans ma vie.
Comment il s'appelle déjà?
Il s'appelle Kokichi Akuzawa.
OK.
Voilà. C'est correct, tu peux me piéger parce que dans quelques minutes, ce sera mon tour de te cuisiner avec notre quiz aux saveurs canadiennes.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Encore une fois, Simon, je ne sais pas pour toi, mais j'ai le thème de The Price is Right et dans la tête. Parce que c'est notre quiz.
Ben déjà, si je connaissais d'autres thèmes de d'autres quiz, peut-être que ça m'aiderait. Je ne me rappelle même pas du thème de Who Wants to be a Millionaire.
C'est vrai que c'est pas mal le seul qui reste pogné. Puis de tout le temps qui a duré et que ça dure à la télé, c'est ça. C'est The Price is Right. Et qu'est-ce que tu veux? C'est
50aine d'années peut-être, quelque chose en genre. Ah,
un autre 50e qui se fête dans cette émission. Incroyable. On en fête-tu des anniversaires? Hey, parlant d'anniversaires et de choses, Simon, tu nous as mis un bouton sur le site web nosradio.ca pour les souhaits.
Oui.
Est-ce que tu veux lancer l'invitation?
Oui, absolument. Allez sur nosradio.ca. Je pensais qu'on allait avoir des gens qui allaient se déjeuner bien avant ça. On n'a pas encore eu de salutations.
Mais c'est correct. Là, c'est la première semaine. C'est un faux départ, la gang. On peut se reprendre.
OK. C'est facile. Vous allez sur nosradio.ca. C'est au pluriel, nosradio.ca. Oui. Et sur la page d'accueil, vous avez un petit bouton, c'est pour faire des salutations. Admettons que vous êtes à Chétiquan, en Nouvelle-Écosse, puis vous avez de la parenté, par exemple, sur la côte ouest.
C'est
à Victoria,
possible.
On va dire.
Mm-hmm.
Ou encore en Alberta, je ne sais pas. Vous allez là, puis vous vous enregistrez. Vous avez même le droit à un petit coup de pratique à part de ça. Vous pèsez sur le bouton pour vous enregistrer. Vous dites « Bonjour, je m'appelle un tel, je reste à Chétiquan ou je reste à, je ne sais pas, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. » Et puis je vous écoute, puis je veux saluer ma belle-sœur qui est en Alberta. Puis là, vous pressez « Stop ». Puis avant de nous l'envoyer, vous avez le droit de recommencer. C'est assez bien fait.
Ah, c'est le fun, surtout si tu t'enfarges dans le nom de ta belle-sœur. Hein, comme ça,
ouais. tu sauves la face.
C'est ça.
Ça fait que c'est ça. Allez sur nosradio.ca, pressez le petit bouton, envoyez vos salutations. Et puis une fois de temps en temps, on va en faire jouer dans l'émission. Puis...
Bon, ben on veut vous entendre. C'est on aime ça savoir que vous êtes là aussi. T'sais, on ne fait pas Exactement. De la radio pour rester toute seule puis faire grincer son micro
Le sait.
Le studio.
Bien, on le sait que vous êtes là parce qu'on regarde, on sait de parler, les codes d'écoute puis les réactions puis tout ça. Mais tu sais, des fois, avoir le feedback, de savoir que les gens sont là, c'est tout le temps bien fin. Alors, nosradio.ca.
Et merci pour cette belle invitation et on va passer maintenant au moment tant attendu de cette émission, le quiz. Comme je disais, t'es un épicurien, t'adores manger, t'adores agencer les saveurs, les épices. Donc, j'ai décidé de te faire des saveurs canadiennes.
OK.
Donc, c'est un quiz sur les saveurs canadiennes, 12 questions, puis on fait le tour vraiment du Canada au complet.
Parfait.
On commence ça à question numéro 1. Quelle herbe aromatique est essentielle dans le bouilli de légumes acadiens du Nouveau-Brunswick? Est-ce que c'est... Ah, tu as des choix de réponse, je te laisse pas tout seul de même. Est-ce que c'est l'origan, la sarriette, le persil ou le basilic?
Peut-être la sarriette.
Bonne réponse.
Ah oui, hein?
Oui, bah, tu vois.
Ça matche bien, la sarriette.
Ben, c'est ça, exact. Très présente donc dans la cuisine acadienne. Elle parfume les plats rustiques comme, entre autres, le bouilli. Bravo. Deuxième question, maintenant on s'en va en Saskatchewan. Quelle céréale est à la base de nombreuses recettes, notamment le pain et la bière artisanale? Est-ce que c'est A, le maïs, B, l'orge, C, le riz sauvage ou D, le millet?
Je dirais l'orge.
L'orge, effectivement. Donc, c'est la Saskatchewan est l'un des plus grands producteurs d'orge au Canada qui est utilisé pour faire le pain et la bière. Donc,
l'orge maltée.
Exactement, l'orge maltée, donc pour faire le malt et pour faire la bière ensuite. Et du bon pain aussi, parce qu'on en a fait du pain.
Du pain à l'orge, ben oui.
Oh oui, tout à fait. Donc, deux bonnes réponses jusqu'à maintenant, ça va bien. Question numéro 3. Le bannock, qui est un pain plat d'origine autochtone, peut être préparé à seulement au four, B, seulement frit, C, au four ou frit ou même sur la braise, ou D, uniquement à la vapeur?
Je dirais la troisième réponse. Four, frit, puis sur la braise.
T'es bon?
Oui. Hein?
Bonne réponse. Donc, sa polyvalence est l'une des raisons pour lesquelles il est si répandu dans tout le Canada. Donc, c'est un pain, en fait, d'origine autochtone. Quatrième question. En Colombie-Britannique, maintenant, on s'en va complètement de l'autre côté. Quel ingrédient accompagne souvent le saumon fumé dans les recettes autochtones traditionnelles? Est-ce que c'est les arelles, donc des canneberges, le riz sauvage, les pommes de terre ou le maïs grillé?
OK. Je dirais... Tu me donnes le deuxième choix, c'était quoi déjà? Le riz sauvage?
Oui, exact.
Moi, je dirais le riz sauvage.
C'est une bonne réponse. Oui, hein? Bravo, okay. Hey, t'as travaillé fort.
Je me demandais, je dirais les arelles, peut-être, mais OK, non, le riz sauvage. Okay.
Oui, le riz sauvage. Donc, bien que le riz sauvage soit plus associé souvent au Manitoba, dans certains plats du Manitoba, on le retrouve également dans plusieurs plats fusion avec le saumon en Colombie-Britannique. Prochaine question. Maintenant, on s'en va dans le nord canadien. Okay. Quelle épice est couramment utilisée pour rehausser la viande de gibier, donc l'orignal, le caribou, dans le nord canadien? Et ça va être... Je te donne un autre choix de réponse, Simon. Okay,
tu vas j'ai peut-être mon idée avant que tu me l'aies donnée, mais vas-y.
OK, tu pourras y aller au pire par élimination. Est-ce que c'est le genièvre? Oui, genièvre, la coriandre, le curcuma ou le fenouil?
J'irais avec le genièvre.
Oui, exactement.
La baie de genièvre.
Oui, c'est ça. Celui que j'ai très mal prononcé, qui apporte évidemment un petit goût boisé qui se marie très bien avec le gibier puis la viande sauvage qui est souvent un peu plus goûteuse.
Bien, sauf erreur, c'est ça qu'on prend, faire du gin de baie de genièvre, il me semble.
Oui, exactement. C'est en plein ça. Tu connais tes saveurs et tes alcools, Simon, la bière et le gin.
Puis pourtant, le gin, là, ouf.
Ben écoute, ça m'aurait surpris, mais en même temps, je suis prête à être...
Non, mais c'est ça.
T'es comme un petit joker, là, poup, qui sort d'une boîte. prochaine question, ça va bien? T'es à 100% jusqu'à maintenant?
Là, on est à la 6, on s'en va à la 6, c'est
ça? Oui, exactement. J'ai pas de numéro, mais c'est la prochaine. J'imagine que c'est la 6e. Ouais. Quelle province est réputée pour son fish and brewy, un plat à base de morue salée et de pain dur trempé? Est-ce que c'est A, la Nouvelle-Écosse, B, Terre-Neuve-Labrador, C, l'île du Prince-Édouard ou D, le Manitoba?
Je m'excuse d'avance, là, je vais vraiment, mais vraiment prendre une chance. Je vais dire Terre-Neuve et Labrador.
Et c'était une bonne chance, Simon.
Ah oui?
Bonne réponse.
Ah, OK, OK.
J'ai goûté à ça l'automne dernier, il y a un an. Okay. J'étais justement à Terre-Neuve-Labrador et des cold tongue. J'ai goûté à tous les plats traditionnels là-bas.
OK.
C'était délicieux. C'est vraiment bon. Puis si t'aimes les produits de la mer, là, évidemment, si t'aimes pas le poisson, c'est un peu plus difficile.
Je déteste pas, là. Oui,
mais c'est délicieux. Donc, c'est un plat plus traditionnel des marins qui est consistant et salé, qui est accompagné parfois de scrunchon, qui est du lard frit croustillant. Souvent, moi, je ne mangerais pas de lard frit croustillant. Mes reins ont mal, juste à y penser.
Ben, ça me dérangerait pas.
Ah ouais,
mais il y a, en tout cas.
Ben, c'est parce que je fais pas encore cholestérol, puis j'aimerais ça rester ça de même. Mais...
Ah, OK, c'est une question de santé. Là,
Hey, du lard frit. T'sais, je veux bien, mais tu peux pas manger ça tous les semaines.
Je vous raconterai quelque chose à propos du bacon, un mode de cuisson du bacon que vous aimeriez sans doute pas.
Tu fais pas cuire du bacon dans du gras de quelque chose?
Dans une chaîne de fast-food où j'ai travaillé, quand les gens se présentaient un petit peu tard vers la fin de la fermeture puis que nos plates étaient fermées, là.
Oh non!
Puis qu'ils demandaient un supplément de bacon dans leur burger, là. ça arrivait que ça finissait dans la friteuse.
Wow!
Wow!
OK! Ben,
on pas laisse... le nom de la chaîne.
Non, ben, on vous laisse penser à ça. Bon.
OK.
Prochaine question, Simon. Qui est toujours à 100%, ça va vraiment bien. Quel dessert typique du Manitoba est préparé par les communautés mennonites? Est-ce que c'est le chou-fly pie, B, Puis là, je m'excuse vraiment de mes prononciations parce que c'est pas...
Je serais pas mieux, là, parce que je connais rien de ça.
Le Biennestitch, qui est un gâteau au miel. Le Rollkuchen, des beignes de plats frits ou une tarte au sucre.
Je dirais probablement le deuxième, le Biennestitch, quelque chose dans le genre. Non?
C'est pas la bonne réponse, non. Mais t'étais pas loin. C'est le Rollkuchen, qui est souvent servi avec du melon d'eau en été. Okay. C'est un classique mononite du Manitoba. Je serais curieuse de goûter à ça. Puis, en fait, de le prononcer comme faux aussi. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, je vous invite à nous laisser un petit commentaire pour la prononciation de mes mots. Prochaine question maintenant. Quelle combinaison d'épices est typique des plats cajun et créoles de la Louisiane, mais qui a aussi influencé la cuisine acadienne du Canada atlantique? Donc là, c'est un mélange d'épices.
Oui.
Le premier mélange A, paprika, cayenne, thym, origan. Deuxième mélange, cannelle, muscade, clou de girofle, cardamone. Troisième, cumin, coriandre, safran, menthe. Quatrième, curry, curcuma, fenugrec et fenouil.
J'hésite entre le A et le D.
OK.
Je vais prendre le change, je vais y aller pour le A maintenant.
C'est... Et c'est une bonne réponse. Oui, okay. Okay. Donc, c'est la cuisine cajun et créole. Donc, quand tu dis paprika, cayenne, thym et origan, c'est vraiment là, le mélange qui a été révélé par le voyage des Acadiens qui ont été déportés là-bas. Donc, c'est des plats du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse également. On retrouve souvent cette combinaison d'épices-là.
Okay.
Prochaine question, on est rendu à 9.
9, oui, je pense que oui.
On en a toujours 12. Donc, quelle spécialité de l'île du Prince-Édouard est souvent appelée l'or rouge? Des îles. Quand même facile, celle-là. Est-ce que c'est le homard, les pommes de terre, les moules bleues ou les framboises?
Les framboises?
À l'île du Prince-Édouard?
À l'île du Prince-Édouard?
L'or rouge, pense-y.
L'or rouge, les patates?
Ben
patates
oui.
Rouges.
Ben oui, okay. Les patates.
OK, les patates rouges.
Les patates. À l'île du Prince-Édouard, le sol est rouge.
Oui, non, je sais. OK.
Donc, c'est nos patates, mais qui est célèbre, évidemment, pour ses pommes de terre, qui sont exportées partout au Canada et même plus loin que ça. Et je suis allée...
Mais je n'allais pas là parce que je me disais, dans le moment, il me semble qu'il n'y a pas juste la patate rouge.
Non, il y a toutes sortes de patates, mais il y a les patates rouges aussi.
Là, tu me disais, OK, l'or rouge, je vois...
Le sol.
Me le donnes-tu ou non?
Oui, je te le donne.
Tu me le donnes pareil. OK,
je t'ai laissé une chance quand même.
Okay.
Mais l'or rouge, c'est ça. Puis le sol est rouge, la terre. Fait qu'il y a peut-être ce côté-là.
Okay.
Puis pour y avoir été justement l'année dernière, là, quand tu passes devant l'usine de Cavendish, ça sent patate.
Okay.
Ça sent vraiment les patates. Okay. Vraiment pareil.
Chacha les patates.
Bon, quelle boisson traditionnelle, mon Dieu, que mon cerveau a touché deux fils. Quelle boisson traditionnelle du Yukon mélange du café, de l'alcool et une garniture insolite? Est-ce que c'est le Yukon Expresso, le Sour Toe Cocktail, le White Horse Mule ou le Klondike Coffee?
Klondike Coffee, je veux dire.
Mauvaise réponse. Okay. La bonne réponse, c'est B, mais moi aussi, je trouvais que c'était un beau nom. Là, c'est le Sour Toe Cocktail, qui est une boisson au whisky servie avec un orteil d'humain momifié.
Oui, j'en ai entendu parler. OK, c'est bon.
C'est
pas bon dans le sens de goût, là, mais je sais de quoi tu parles.
Sour Toe Cocktail, ça le dit. Tu vois, c'est une tradition locale de Dawson City. Si jamais vous passez dans ce coin-là et que vous voulez l'essayer, vous êtes wild un peu, ça se passe là-bas. Prochaine question, Simon, maintenant. Dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, quelle viande traditionnelle est encore largement consommée? Est-ce que c'est A, le kangourou? B, le phoque. Je mette un accent sur ça. C, le renne. Et D, le canard.
Le renne?
C'est le phoque.
Ah, le phoque? Okay.
Oui, le phoque, qui est la viande qui est riche en protéines et surtout aussi en oméga-3 et qui fait partie de la cuisine culinaire inuite. Ça a déjà fait jaser aussi dans l'actualité, mais leur consommation est très responsable. Et là, on termine, je pense qu'il nous reste... une question. C'est ma question de dessert.
Ah, OK.
Mon dessert préféré. Quelle province est associée à la Nanaimo Bar, dessert sans cuisson en 3 couches? Est-ce que c'est la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec ou la Nouvelle-Écosse?
Je dirais probablement la Colombie-Britannique.
Bonne réponse. Donc, originaire de la ville de Nanaimo. Okay. On ne s'est pas forcé. On a juste checké la pancarte. On s'est dit, tiens, là le dessert, on va le nommer comme ça, qui est un dessert emblématique aussi sur la côte ouest. Donc, excellent dessert à consommer. Ça a bien été? Combien de bonnes et de mauvaises?
9 bonnes réponses sur 12. 3 petites erreurs. Je saurais pas dire... Écoute, mes maths de 5 sont loin, là, puis faire le ratio vite de même. Là,
Moi non plus, je ne te mettrais pas dans cette position-là.
9 sur 12.
Bravo.
C'est quand même pas...
C'est un excellent score. Je suis contente. Le thème t'a plu?
Oui, le thème m'a plu. J'ai été surpris à certaines places. Il y a des places, j'ai joué long ball un peu, là,
ouais, ouais, ouais.
Long shot, là, mais non, je suis bien content.
Y aller par élimination, des fois, ça fonctionne bien.
C'est ça.
Ouais, ben, merci beaucoup, Simon, pour cette belle émission. Puis la semaine prochaine, notre chroniqueur, ce sera François Charron, qui va être avec nous. Donc, on parlera de gadgets techno et des dernières nouveautés.
Parfait.
Bonne semaine.